Bonsoir à tous et à chacun. Pourriez-vous d'abord m'accorder toute votre indulgence, car mon français est loin d'être parfait et il me joue des tours. Et pour mon accent aussi, qui n'est pas de Bourgogne, mais qui vient de Pologne. Vous souvenez-vous tous, car vous avez eu le privilège, comme moi, de vivre durant le pontificat de Jean-Paul II, du 13 mai 1981 et de l'attentat. Nous étions tous bouleversés, nous nous souvenons tous de cet instant. Les montagnards des Tatras, où Jean-Paul II venait souvent et qu'il chérissait cette région, ont promis, en guise d'ex voto, de construire une église pour Notre-Dame de Fatima si Notre-Dame de Fatima sauvait la vie de Jean-Paul II. Nous connaissons la suite. Et l'église fut construite comme un don, comme un ex voto. Tout était donné bénévolement, depuis l'architecte jusqu'à l'électricien, depuis tout, chaque être a apporté sa contribution. Et puis Jean-Paul II, au cours d'un de ses pèlerinages, est venu consacrer l'église. Et j'ai eu le bonheur de participer à cette cérémonie, mais l'église est toute petite, je n'étais pas dans l'église, car il y avait seulement les moines et les moniales à l'intérieur, et moi j'observais la cérémonie de l'extérieur. Merci bien. Merci. J'observais la cérémonie de l'extérieur et sur un grand écran, ce qui était un enchantement car la montagne nous envoyait tous nos alléluia et tous nos amen par un écho et c'était vraiment des cadeaux prodigieux que nous avons considérés comme des cadeaux cosmiques. La cérémonie se déroule et nous voyons pendant un certain moment qu'il y a la procession des offrandes. Et durant cette procession, nous voyons Jean-Paul II assis en face de nous, et nous voyons seulement de dos la procession des offrandes qui s'avance. Et puis Jean-Paul II est souriant, rayonnant, il a un regard pour chacun, un mot pour chacun. Et puis arrive la dernière personne, une femme assez âgée, assez mal vue de dos, bossue, dans un mal-être évident, corporel. Et puis nous voyons le visage de Jean-Paul II qui devient triste, attentif. Et puis nous voyons Jean-Paul II, mais nous ne voyons pas la femme, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais nous voyons le visage de Jean-Paul II, nous voyons un effort surhumain sur le visage de Jean-Paul II qui contrôle ses émotions. Et puis nous voyons que son visage est tordu de douleur et notre respiration s'arrête, nous ne savons pas ce qui se passe. Et puis nous voyons des larmes couler sur les joues de Jean-Paul II. Nous ne savons toujours pas ce qui se passe. Et puis il y a des longs moments qui se passent dans un silence absolu. Et puis le chef de cérémonie prend le micro et lui-même bouleversé, n'arrivant pas à avaler sa salive, nous dit que cette femme qui était toujours à genoux devant Jean-Paul II avait 17 ans le 15 août 1939. Et c'était le jour de ses noces. Le 1er septembre 1939, les Allemands envahissaient la Pologne et la Deuxième Guerre a éclaté. Son époux était mobilisé, elle ne l'a jamais revu, elle ne sait pas où il était mort et quand il était mort. Durant la guerre, sa maison était bombardée, elle n'avait aucune trace, aucun témoignage, aucun souvenir de ses fiançailles, de cet homme qu'elle a aimé, il ne lui restait qu'une alliance. Quand elle a appris qu'il va avoir une église dédiée à Notre-Dame de Fatima qui a sauvé la vie de Jean-Paul II, elle a pris l'initiative de demander à toutes les veuves de la région d'offrir ses alliances et d'offrir les bijoux lesquels avaient une grande valeur sentimentale pour elle, pour les faire fondre et de faire en don la couronne pour Notre-Dame de Fatima qui a sauvé la vie de Jean-Paul II. C'est un témoignage que je dois partager avec vous parce que vous connaissez les détails de tout ce qui s'est passé avant et maintenant vous savez que finalement il y a beaucoup de levain dans toutes ces histoires de Jean-Paul II et que l'histoire continue et Jean-Paul II est toujours parmi nous et le bien qu'il nous a fait ne nous appartient pas, nous devons le partager. C'est ainsi que je suis venue ici un jour, étant de passage à Paris, dans cette église, et je suis venue à l'ère de Jean-Paul II. L'ère de Jean-Paul II, c'est l'ère que nous appelons en Pologne en 17h-18h. C'est l'ère où il était né, et c'est l'ère où il était devenu le successeur de Pierre, et c'est l'ère où il y avait eu l'attentat contre lui le 13 mai. Je suis venue dans cette église, à l'ère de Jean-Paul II, et j'étais bouleversée de trouver sa photo à droite de l'autel. Et je me suis recueillie pendant un très long moment, et cette photo, je la même, où il contemple l'hostie, l'hostie qui était en même temps vénérée dans les saints sacrements, m'a bouleversée. J'assistais pour la première fois à la prière des malades. J'étais bouleversée par les silences, par les recueillements, par l'ardeur de toutes les prières, la ferveur de tous les chants. Et puis, il y avait des choses qui se passaient en direct. Je me suis dit, mon Seigneur, mais quel scoop! Et je suis venue, moi, comme très gravement malade, et portant mon malheur sur tous les continents depuis plusieurs années. Et tous les éminents ophtalmologistes n'arrivaient pas à me guérir. Et je demandais si je pouvais avoir quelques miettes de ce retable où tombaient tant de guérisons et de grâces. Je serais comblée. Et bien pour moi, durant cette prière des malades, il n'y avait pas la foudre, il n'y avait pas les grands vents. Mais en sortant, je me suis dit, peut-être qu'il y aura une petite brise, une brise douce, peut-être, qui sait. Et je me suis promis de revenir dans cette église. Et puis je suis partie très vite en Pologne, avec un grand chagrin pour les obsèques en famille, et dans ma précipitation, en oubliant ma mallette de médicaments. Je n'ai pas eu le temps de penser à mes yeux durant la semaine qui suivait. Et au bout de quelques jours, j'ai réalisé que non seulement je n'avais pas mal aux yeux, non seulement que les yeux ne brûlaient pas, non seulement que les yeux ne pleuraient pas, mais que j'arrivais à les ouvrir automatiquement, ce que je n'ai pas pu faire depuis des années, souffrant de l'épithélium. Et puis, un bon matin, à Varsovie, je me suis dit, mais je ne me suis pas occupée de mes yeux, mais peut-être quelqu'un d'autre se préoccupe. Et je viens ce soir vous témoigner que ma guérison continue et que tous les jours, au soir et au matin, je rends grâce à Dieu, car le mal qui m'a rongé depuis tant d'années est en voie de disparition. Et même le pleurer m'était interdit pendant des années. Et en Pologne, je déversais des larmes pour un être très cher. Et me voilà parmi vous ce soir, rendant grâce au Seigneur. Et avec la prière de Jean-Paul II, je vous dis mes pensées quotidiennes. La prière de Jean-Paul II qu'il a reçue de Padre Pio. Mon passé à ta miséricorde, mon présent à ton amour et mon avenir à ta providence, Seigneur. Alors, frères et sœurs, avec courage et confiance, entrons dans l'espérance. Merci pour votre patience.
Arrêtez-vous trois secondes et rendons grâce au Seigneur. D'abord, je remercie Lucia Dorota pour ce très beau témoignage de ses yeux qui guérissent, qui étaient ses yeux en train de mourir, qui ressuscitent par la grâce de Dieu. Je la remercie. Je vois qu'elle a mis un costume, un très beau costume pour faire ce témoignage, vous voyez, pour rendre grâce au Seigneur. Et il y en a qui se diront peut-être, mais comment c'est possible de guérir comme ça? Ça a l'air tellement facile. Ben oui, c'est facile. Pour Dieu, c'est d'une simplicité, je dirais, angélique, même plus divine. Mais il faut mettre sa foi en Dieu. Il faut mettre sa foi en Dieu. Et Dieu fait le meilleur. Alors, confions-nous, ayons confiance dans notre Dieu, dans notre Père qui nous aime. Et il va venir au secours de chacun d'entre nous. Ayons simplement confiance en lui. Et si nous venons ici, c'est précisément pour grandir dans la foi, afin qu'il fasse des merveilles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.